15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Omblin. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour, ça va bien,
bonjour à tous. Temps, oui. Parisien.
Fais doux.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Chaque année, les accidents de la vie quotidienne font plus de 4 millions de blessés. Bougies oubliées sur une table, casserole d'eau bouillante dangereusement posée près du bord, objets coupants à proximité d'un enfant. D'après une étude menée par Attitude Prévention, 90% des parents reconnaissent avoir déjà eu un comportement à risque avec leur enfant. On recense près de 20 000 décès par an à cause d'accidents domestiques. Les plus de 85 ans sont les plus touchés par ce phénomène. Ils sont notamment plus sensibilisés aux chutes mortelles, plus sensibles. Tous ces accidents, a priori anodins, pourraient être évités. Il existe aujourd'hui de nombreux moyens de les prévenir et sécuriser son environnement. Nous allons voir aujourd'hui, à travers vos témoignages, comment prévenir ces accidents de la vie courante. Accidents domestiques, comment les éviter? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute au 39-21 comme chaque jour. Le standard d'Europe 1 est ouvert. Vous nous laissez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous n'hésitez pas également à nous écrire sur la page Facebook via le groupe de l'émission.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Bérangère sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Bonjour.
Oui, allô, oui, bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Bon, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Paris, j'ai 28 ans.
D'accord. Alors quand vous étiez ado, vous avez voulu faire fondre de la cire, oui, pour créer, oui, voilà, une bougie. Vous étiez, oui, voilà, une habituée du bricolage ou une petite scientifique en herbe?
Exactement. Mais d'habitude, je faisais ça avec ma maman, avec qui on faisait beaucoup de bricolage.
D'accord.
Et là, un jour, je rentrais du collège et je m'ennuyais un peu. Et comme je sais que j'aimais beaucoup faire ça, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire toute seule. Mm-hmm. C'était pas une bonne idée. Mais du coup, j'ai commencé à faire fondre la cire sur le feu.
Oui.
Et je trouvais que ça mettait un peu trop de temps. Du coup, je suis montée regarder la télé en haut et évidemment, j'ai oublié en bas le feu et la cire. Mmh. Et ce qui m'a rappelé ce que j'avais laissé la casserole, c'est l'odeur. Donc je suis descendue en trombe. Quand je suis arrivée, il y avait toute l'eau avait fondu, c'était au bain-marie.
Oui.
Toute l'eau avait fondu, il y avait une flamme jusqu'au plafond avec beaucoup de fumée. Et j'ai voulu jeter de l'eau dessus, ça a fait pire parce qu'il y a eu des petites projections qui se sont mises sur moi, enfin qui me sont tombé dessus.
Oui.
Et finalement, j'ai réussi à éteindre le gaz, le feu s'est un peu éteint, et le plafond était très bas de plafond, mais tout était carbonisé dans la cuisine. Et du coup, voilà, j'ai eu très peur. Il y a eu le...
Oui, je suppose que vous avez eu très peur. Votre mère a eu peur aussi. Elle est rentrée, oui, entre-temps, ou
Elle est rentrée quand c'était fini. Et
d'accord.
Les voisins étaient en train, je crois, d'appeler peut-être potentiellement les pompiers parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une drôle d'odeur.
Oui.
Mais c'était déjà fini, c'était déjà éteint.
Mm-hmm.
Et on a dû refaire la cuisine juste après.
Entièrement. Vous dites, ouais, que cet accident de la vie courante a encore un impact sur votre vie aujourd'hui. Lequel?
Oui, bah, je fais très attention au gaz et parfois je me crée du stress, je me mets en retard.
Oui.
Parce que j'ai peur d'avoir laissé le gaz ou une casserole allumée chez moi. Donc parfois je fais demi-tour alors que j'ai un rendez-vous juste pour vérifier que j'ai bien éteint le gaz parce que...
Ça modifie uniquement votre comportement là, de comme vous me le racontez, ou est-ce que lorsqu'il nous est arrivé ce type d'accident, est-ce qu'on finit par faire attention à tout?
Moi, je fais attention à tout, enfin, surtout quand je sais qu'il y a du feu, des choses comme ça, oui.
Mm-hmm.
Mais oui, quand je sais qu'il y a du feu et que ça, oui, je fais très attention. Oui.
Mm-hmm. En tout cas, vous n'avez pas été blessé, hein?
J'aurais pu en avoir parce que je me rappelle qu'il y avait eu des petites projections de cire qui m'étaient tombées dessus, mais ça m'avait fait des blessures superficielles.
D'accord.
Mais okay. Ça aurait pu être.
En fait, voilà, vous auriez pu, ouais, mettre le feu à la maison. Bon, là,
ouais,
vous étiez pour une cuisine. Bon,
ouais,
c'était grave, mais pas toute la maison. Ouais. Tout au long de cette émission, nous aurons avec nous Muriel Boin, experte pour Attitude Prévention. Nous allons voir comment éviter ce type d'accident. Bonjour Muriel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Alors, comme vous avez entendu le témoignage de Bérangère, qui aurait pu faire brûler sa maison en entier, hein, le gaz est souvent responsable d'accidents domestiques. Comment peut-on prévenir ce type d'accident aujourd'hui?
Alors, je pense que là, ce n'est pas tout à fait le gaz qui est en question. C'est plus le fait que, en fait, on a laissé quelque chose sur le feu, sur une flamme vive,
oui.
Et qu'on l'a laissé sans surveillance. Donc après, ce que j'ai entendu de ce témoignage, c'est que ça va très vite, qu'on est en panique, qu'on n'a pas forcément le bon comportement, puisqu'on a été mettre de l'eau sur une flamme. Donc forcément, plutôt que de l'éteindre, on l'a réactivé et réanimé. Et ce que j'ai entendu dans ce témoignage aussi, c'est toute l'idée de se dire j'avais l'habitude de le faire avec ma maman, et là je me suis sentie de le faire toute seule parce que je me suis sentie capable de le faire.
Oui.
Et puis à un moment donné, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les témoignages d'accidents d'enfants. Mmh. Les enfants qui ont voulu faire comme les grands, qui ont voulu refaire les mêmes choses seuls, et puis qui se retrouvent dépassés parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. En fait.
Le feu se retrouve souvent au cœur des accidents dont vous prenez connaissance ?
Alors absolument, c'est 800 victimes chaque année, c'est un incendie toutes les 2 minutes en France, donc ça n'est pas anodin.
Oui.
J'avais aussi en réflexion, l'idée que peut-être ça fait un petit moment que c'est arrivé à Bérengère et qu'elle n'avait pas forcément de détecteur de fumée,
non.
Qui aurait peut-être pu l'alerter bien en amont et faire en sorte que le feu soit finalement ait moins d'ampleur et ne se soit pas développé aussi rapidement que ça. En fait.
On parlera de tous les réflexes à avoir lorsque on aborde une situation comme celle-là. Muriel Boin, vous restez avec nous en ligne. Merci beaucoup Bérengère pour votre appel et pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Laetitia. Elle s'est brûlée le corps à cause d'une casserole d'eau bouillante qui lui est tombée dessus.
Europe 1.
On parle des accidents de la vie courante. Vous avez été blessé, l'un de vos proches, l'un de vos enfants. Vous nous racontez votre histoire au 39-21, 50 centimes la minute. Vous réagissez sur Twitter également avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix le 39-21 pour venir nous raconter votre histoire avec l'association Attitude Prévention. Cet après-midi, on parle des accidents domestiques, des parents, des enfants qui se blessent parfois très gravement à la maison. Cela vous est arrivé, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous avons eu Bérengère au 39-21 qui nous expliquait avoir voulu faire elle-même des bougies en faisant fondre de la cire dans une casserole et être montée dans sa chambre et avoir oublié tout et avoir failli mettre le feu à sa maison. Et nous sommes maintenant avec Laetitia. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Laetitia.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 21 ans et je vis à Cergy-Pontoise.
D'accord. Le 17 décembre 2017, alors que vous étiez en train de faire chauffer de l'eau pour vous faire des pâtes, il vous est arrivé un accident grave. Racontez-moi ce qu'il s'est passé.
Donc voilà, c'était le soir, donc un dimanche soir, et je voulais simplement me faire des pâtes et j'ai voulu me baisser, j'habite dans un appartement étudiant,
oui.
Et donc j'ai voulu me baisser pour récupérer quelque chose dans mon frigo pour simplement savoir avec quoi j'allais manger mes pâtes.
Mm-hmm.
Et les plaques se trouvaient juste au-dessus, et au moment où je me suis redressée, en fait je suppose que mon épaule a tapé contre le manche de la casserole.
Oui.
Et une seconde après, je me suis retrouvée allongée par terre. J'ai tout de suite en fait compris ce qui s'était passé. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai tout de suite réagi. Mais voilà, j'ai commencé à crier, j'étais paniquée, j'avais peur.
Mmh.
Et j'ai commencé à avoir mal, quoi.
Vous pensez que votre corps s'est mis dans une sorte de mode en veille, tellement la douleur a été fulgurante? Comment vous expliquez cet état-là?
Je ne sais pas si mon corps s'est vraiment mis en veille, parce que la douleur, c'est, je m'en souviens. Mais voilà, parfois quand j'y pense, j'ai encore cette sensation qui me monte en fait.
Oui.
Et ce qui s'est mis en veille, c'est presque la peur. Parce que tout de suite, j'ai voulu réagir. Comme j'étais toute seule, je ne voulais pas rester dans cette situation-là.
Mmh.
Voilà, je voulais que quelqu'un sache dans quel état j'étais.
Vous étiez donc, seule ce soir-là ?
C'est ça, exactement, exactement.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite en fait eu le réflexe de ramper et d'aller récupérer mon téléphone qui se trouvait sur une commode pas très loin de ma cuisine.
C'est en arrivant aux urgences que vous avez eu le contre-coup. Racontez-moi ce qu'il s'est passé dans votre tête à ce moment-là.
J'ai appelé ma mère tout d'abord.
Oui.
Parce que c'est un réflexe que j'ai eu. Comme c'est dans le numéro favori, j'ai tout de suite eu ce réflexe-là. Et je ne sais pas ce que je lui ai dit au téléphone, mais elle m'a dit en fait d'appeler les pompiers parce que malheureusement elle se trouve à 50 km de chez moi. Donc dans l'urgence, elle ne pouvait pas être là. Mais au moins, elle était au courant et c'est ça en fait qui me rassurait, c'est que ma mère a su ce qui s'était passé.
Oui.
Donc après, j'ai appelé le 112. Pareil, ce sont des numéros qui nous disent qu'il faut qu'on connaisse depuis qu'on est en primaire, depuis notre plus jeune âge. Mais ça sert, quoi, c'est important. Et pareil, tout de suite, par réflexe, j'ai donné mon nom, mon prénom, mon adresse, mon étage. Enfin, voilà, j'ai donné toutes les informations.
Que vous a-t-on dit de faire tout de suite lorsque vous avez eu le 112?
Alors, on m'a dit de pas trop paniquer, parce que je pense qu'il a entendu, enfin, le pompier que j'ai eu au téléphone a entendu à ma voix que j'avais peur, quoi.
Oui.
Et donc, il m'a dit de rester en ligne avec lui, surtout, vu qu'il savait que j'étais seule et que j'étais jeune. Et il m'a dit d'aller sous la douche, tout habillée, de pas chercher à enlever mes vêtements, parce que bien sûr, j'étais habillée. Hein,
oui,
et il
oui.
m'a dit de pas chercher à enlever mes vêtements. Mmh. Ça, pour le coup, ça pouvait être dangereux. De bien respirer, de continuer à lui parler, donc de déposer mon téléphone, de continuer à lui parler, de rester éveillée, de... Voilà, de bien bien respirer et de rester sous l'eau froide jusqu'à ce que les pompiers arrivent.
Mmh. La brûlure recouvrait quelle partie de votre corps en fait ?
Alors sur le coup, je ne savais pas tellement parce que en fait, quand j'ai regardé mon corps, il était simplement rouge au niveau du bras.
Oui.
Et vu que c'est avec l'eau, c'est de l'eau bouillante, donc j'avais l'impression que c'était comme si je venais d'avoir un coup de soleil.
Oui.
Mais moi, je ressentais des douleurs au niveau du thorax et de tout le bras droit.
Mmh.
Et c'est par la suite en fait qu'on a su, quand les pompiers sont arrivés, quand ils m'ont enlevé mes vêtements, qu'on a vu que ça touchait le torse, la poitrine et tout le bras droit.
Mmh. Vous restez avec nous en ligne, Laetitia, au 3921. Dans quelques instants, on va parler de la suite de cet accident, comment vous vous êtes soigné, ce que l'on vous a prescrit et comment vous vous êtes réapproprié votre corps.
Europe 1. Nous parlons des accidents de la vie courante, des gestes anodins à la maison qui peuvent entraîner de graves blessures. Vous en avez été victime, l'un de vos proches, vous composez le 3921. Vous avez déjà ramassé un verre cassé sans prendre garde, marché un peu rapidement sur le sol mouillé de votre salle de bain. Venez nous raconter si vous avez été victime d'un accident de la vie courante. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Laetitia au 3921 qui nous racontait qu'un jour, alors qu'elle voulait se faire des pâtes, la casserole d'eau bouillante lui était tombée sur le torse. Elle a eu le réflexe d'appeler le 112, mais c'est encore une douleur très vive, on le sent chez elle. Laetitia, les premiers mois, qu'est-ce qu'on vous a prescrit? Qu'est-ce que vous avez dû faire?
Alors, sur le coup, j'ai été hospitalisée parce que comme ça recouvre à peu près 20% de mon corps, on a considéré qu'une hospitalisation était nécessaire pour
oui.
avoir un meilleur suivi.
Mmh.
Et il faut savoir que dans les jours qui suivent en fait l'accident, donc la brûlure, malheureusement, ça continue de brûler.
Oui.
Donc voilà, il fallait vraiment voir l'évolution et il fallait déterminer si j'avais besoin ou non d'avoir une greffe de peau.
Mmh.
Donc ça a été fait 3 semaines après. Et j'ai été hospitalisée donc début janvier pour avoir une greffe de peau sur plusieurs parties de mon corps. Et par la suite, voilà, j'ai continué les pansements parce que j'avais une infirmière qui venait tous les jours quand
oui.
je suis rentrée chez moi,
mm-hmm.
à peu près 1 heure et demie, parce qu'il fallait qu'elle vienne enlever mes pansements, m'aider à prendre ma douche et à les refaire. Donc ça, cette période-là est assez longue parce que forcément, j'étais chez moi, je suis étudiante et
bien
j'ai
sûr.
Arrêté
mm-hmm.
mes études,
mm-hmm.
décalé mon stage de fin d'études. Et à la suite, j'ai eu de la rééducation que j'ai arrêtée là début septembre. Et j'ai toujours encore des vêtements compressifs
oui,
qui permettent en fait de protéger la peau déjà des agressions
oui.
extérieures.
Et de cicatriser, non ?
Exactement, exactement. Mm-hmm. Pour qu'il y ait le moins de traces possibles.
Mm-hmm. Dans votre accident, il y a aussi bien évidemment la réappropriation de son corps. Vous avez du mal à accepter ces nouvelles marques sur votre peau ? Est-ce qu'elles se voient
ouais.
beaucoup ?
Bah, je pense que ça, c'est le plus dur en fait, parce que c'est des choses qui me rappellent constamment ce qui s'est passé.
Oui.
Après, j'ai la chance, c'est que ça n'a pas touché mon visage, ça n'a pas touché mes mains.
Bien sûr.
Donc quand
mmh.
je suis en pull, en manteau,
ça
ne se voit pas mmh. exactement. Mais par exemple, en cours, je ne me mets jamais en t-shirt. Voilà, c'est compliqué encore de le montrer. Après, mmh. bien sûr, à ma famille, j'ai pas de mal parce que
voilà, qu'on sait ce qui vous est arrivé.
Depuis le début, exactement.
Ouais. Mmh.
Ouais.
Qu'auriez dû vous faire, selon vous, pour éviter un tel drame ? Je sais que la question peut paraître un peu
ouais.
succincte, mais quand c'est arrivé, mais à votre avis ?
Je sais pas, être plus vigilante en fait.
Ouais.
Il suffit d'une seconde d'inattention. Ce
ouais.
sont des gestes qu'on fait au quotidien. Là, j'étais fatiguée, j'étais stressée par rapport à mes partiels.
Mm-hmm.
Voilà, ce geste-là, où je le fais tous les jours. Ça faisait 3 ans que j'habitais dans cet appartement. C'est quelque chose que je fais tous les jours.
Mm-hmm.
Donc oui, je pense qu'il faut constamment être vigilant et faire attention. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident parce que ça reste un accident. Et ça a été difficile à l'accepter en fait, parce que je me suis sentie coupable pour le coup.
Mmh. Est-ce que cela a changé vos habitudes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, presque un an après, je ne me fais pas à manger. Je n'arrive toujours pas à à me faire cuire quelque chose avec mes plaques. Mmh. Je ne suis pas capable encore de me faire couler un café. Parce que en fait, j'ai peur de renverser, quoi. C'est ça, j'ai peur.
On sent que c'est encore très présent et très vif hein, pour vous. Mais merci. D'abord, ça va aller de mieux en mieux. Hein. Vous le savez, ouais. Vos médecins ont dû vous le dire. La peau, c'est long, mais un jour, ça revient. Mille merci pour votre témoignage au 3921 et bon courage à vous, Laetitia. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Je me retourne vers vous, Muriel Boin, désormais, en fait, je rappelle que vous êtes experte hein, pour Attitude Prévention et que vous êtes là pour nous donner vos éclairages sur toutes ces situations d'accident de la vie courante. Laetitia a fait une faute d'inattention, elle était fatiguée. Comment aurait-elle pu éviter tout cela ?
Alors, ce qu'on dit toujours, c'est par exemple utiliser les plaques du fond. Mais là, elle nous a expliqué qu'elle était dans un logement étudiant. Donc, dans un logement étudiant, on n'a pas forcément un équipement extrêmement sophistiqué. Donc, là, c'était certainement dans un endroit très réduit, très petit. Elle a bougé un tout petit peu. La queue de sa casserole devait dépasser. Et effectivement, mais dans plein de cas, c'est toujours à l'origine quelque chose d'un peu bête, d'un peu rapide. Les brûlures, c'est 500 000 brûlures chaque année. C'est 11 000 hospitalisation, et dans 27% des cas, ça se passe dans la cuisine. Donc là, ce qu'elle nous a raconté, c'est pas du tout quelque chose qui n'arrive jamais. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est courant. Et en plus, après, elle a très bien expliqué toute cette partie qui est des séquelles psychologiques graves, des séquelles esthétiques aussi. Quand ça arrive sur des enfants, là encore, c'est assez terrible parce qu'elle nous a expliqué qu'elle avait eu des greffes de peau, par exemple. Mais quand ça arrive sur un petit, eh bien, c'est de la peau qui ne va pas grandir avec l'enfant. Donc, on imagine bien le nombre de greffes successives qui sont à venir. Donc, la brûlure pour les enfants, c'est quelque chose de terrible, c'est déjà terrible pour un adulte, c'est extrêmement douloureux, c'est très long et je crois que son témoignage à Laetitia doit nous faire réfléchir et on voit combien encore elle est très touchée par ce qui lui est arrivé.
Muriel Boin, restez en ligne avec nous, dans quelques instants nous serons en ligne avec Valentine, elle a perdu son petit garçon de 4 ans à cause encore d'un accident domestique.
Et il y a Charline qui témoigne au 39-21, le jour de ses 3 ans mon fils a dévalé les escaliers pour rejoindre la famille qui était en bas, ma grand-mère a fait un malaise en voyant ça, heureusement que je suis infirmière, plus de peur que de mal.
Europe 1.
Vous bricolez, vous vous êtes déjà blessé, vous n'êtes pas prudent en changeant une ampoule, un geste anodin à la maison qui peut entraîner un accident. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h. Nous parlons des accidents de la vie courante. Quel comportement adopter à la maison pour éviter le plus possible le risque de se blesser, de blesser son enfant? Vous témoignez sur Europe 1, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 également. Jean-Jacques Goldman, avec Patois.
Pourquoi je saigne et pas toi?
Jean-Jacques Goldman en live avec Michael Jones et Carole Frédérics, pas toi sur Europe 1. Ça nous concerne tous, on se sent à l'abri chez soi, minimisant les risques du quotidien. Nous parlons des accidents de la vie courante, vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Valentine. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Valentine.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Bruxelles et j'ai 40 ans.
D'accord. Alors, on salue Bruxelles, avant de vous écouter, Valentine. Le 12 avril 2015, votre petit garçon de 4 ans a fait un goûter pour son anniversaire, mais il s'est passé un événement dramatique. Racontez-moi ce qu'il s'est passé ce jour-là.
Eh bien, en fait, toute la famille était réunie et après avoir soufflé ses bougies, il est monté avec sa sœur et ses cousines jouer dans les étages. Et nous, les parents en bas, nous ne nous sommes pas rendus compte qu'une porte était restée ouverte vers le grenier et qu'ils ont glissé dans un petit interstice et sont arrivés dans un endroit qu'on pensait être tout à fait inaccessible, qui était le haut de la verrière au-dessus de la cage d'escalier. Mmh. Ils se sont mis à jouer là et puis ma nièce de 2 ans s'est mise à sauter sur la verrière. Elle était très légère et mon fils a voulu l'imiter. Mais lui, évidemment, il était plus lourd à 4 ans et la verrière a cédé sous son poids et il a fait une chute de 14 mètres.
Oui. Cet endroit, en fait, vous dites que vous ne saviez pas qu'on pouvait y accéder. La faute à qui, en fait ? Est-ce que c'est l'architecte ? Est-ce que...
En fait, aux architectes, effectivement, qui nous avaient dit que l'accès était totalement condamné et puis qui ont changé leur plan dans leur esprit pour qu'un jour un électricien puisse aller y faire des travaux qu'ils ne l'ont pas dit, mais la porte était quand même condamnée, et puis à la femme de ménage qui, pour avoir de la lumière du jour quand elle faisait du rangement dans le grenier, a laissé cette porte de sécurité ouverte sans que nous le sachions, puisque nous ne mettions jamais un pied au grenier.
Et concernant cette verrière, en fait, elle n'était pas en plexiglas, c'était...
Non, elle était en simple verre, puisque le but n'était pas qu'elle soit accessible, elle était en simple verre comme une vitre, si vous voulez, chez vous.
Quel a été votre premier réflexe lorsque votre fils a fait cette chute de 14 mètres ?
Je n'ai pas compris, en fait. Donc, j'ai entendu un bruit de verre énorme. J'ai cru que les enfants avaient fait une bêtise. On s'est tous précipités dans le hall d'entrée où on a trouvé Charles qui était par terre. Et mon mari l'a pris dans les bras. Et ma sœur a appelé l'ambulance. J'en étais malade. Je me souviens avoir... Enfin, j'étais malade dans la rue d'angoisse pendant qu'on attendait l'ambulance, et je suis montée dans l'ambulance avec Charles et il était tout beau, vous voyez, il n'avait rien, mais il était cassé en fait à l'intérieur. Et il a été emmené en urgence à l'hôpital où le bloc était déjà prêt. Mais malheureusement, on ne pouvait pas l'opérer parce qu'il avait un œdème cérébral diffus, comme il était trop petit et que la chute était trop longue, il s'est retourné, le cerveau à cet âge-là est encore plus lourd que le corps.
Oui.
Et donc il est tombé... sur la tête, donc son corps était impeccable, mais il avait un œdème diffus à la tête.
Après 5 jours de coma, Charles s'est éteint des suites de ses blessures. Les accidents de la vie domestique, nous le disions au début de cette émission, représentent 20 000 décès par an. Avez-vous l'impression de ne pas avoir été assez informé à ce sujet ?
Comment dire, le gros problème, c'est qu'on est persuadé vraiment que chez soi... surtout quand on a rénové sa maison ou son appartement, qu'on est tout à fait en sécurité. Donc, on relâche un petit peu notre attention sur les enfants. Et c'est la vie, c'est normal. On doit pouvoir les laisser jouer seuls pendant qu'on fait autre chose. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'accidents domestiques. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on a monté une fondation qui informe un maximum et qui fait tout pour diminuer, parce qu'il y a moyen, de manière assez aisée, de diminuer l'impact et les conséquences des accidents domestiques divers, comme l'ingestion de produits, les brûlures et évidemment les chutes.
Quelle question vous traverse lorsque il vous arrive encore de penser à cette porte qui devait être condamnée et que votre femme de ménage laissait entrouverte pour avoir... Vous posez quel type de questions
Des questions qui ne servent à rien. Je me dis, si on n'avait pas acheté cette maison-là, si on n'avait pas engagé cette dame-là, si ce jour-là... on les avait gardés à table. Voilà, mais tout ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est éviter que d'autres gens ne subissent cet accident et cette perte.
Et pour cela, je rappelle que vous avez créé une fondation pour Charles, qui s'appelle Fondation pour Lali, c'est ça ?
Et la Fondation Lali, et donc nous avons une maison virtuelle où toute personne peut se rendre et on se promène dans toutes les pièces de la maison de Lali, donc salle de bain, chambre, et on voit tous les dangers potentiels et comment les supprimer.
D'accord. Muriel Boin, je me tourne vers vous. Vous êtes notre experte en la matière. C'est une histoire dramatique qu'ont vécu Valentine et sa famille. Comment prévenir ce type d'accident ?
Alors, je crois que dans ce cas particulier, c'est vraiment une chaîne d'événements imprévisibles.
Oui.
Alors effectivement, Valentine a raison, il y a plein d'accidents qu'on peut éviter parce que on n'a pas fait attention, parce que on a manqué de vigilance, parce qu'on veut faire les choses trop vite. Mais dans ce cas précis, c'est une telle chaîne d'événements, elle l'a expliqué très bien. Là, je suis un petit peu démunie pour dire il aurait fallu faire ci ou ça. Non, là, c'est vraiment malheureusement quelque chose qui était complètement imprévisible. Les enfants eux-mêmes sont imprévisibles. Les enfants, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe. Elle a parlé d'un petit interstice. C'est vrai que j'ai envie de me glisser dedans, etc. Un enfant, ça n'a absolument pas de notion du danger. Donc, on peut très bien leur dire, on ne monte pas sur une verrière parce que c'est dangereux. Ça ne veut rien dire pour un tout petit.
Mais on peut appeler encore à la vigilance des parents. Et cette vigilance, je suis sûr que Valentine l'avait de toute façon, et ainsi que les parents présents. présent, mais il y a une part aussi de, voilà, d'inconnu et, comme vous le dites, de succession d'événements dans cette histoire qui finit tragiquement, bien évidemment. Merci infiniment, Valentine, pour votre appel et votre courage. Je rappelle que votre fondation s'appelle la Fondation pour l'Allier et que cette maison virtuelle, on la trouve sur Internet et on y trouve plein de bons conseils pour prévoir de ces accidents. Muriel Boin, vous restez avec nous. Nous serons dans quelques instants avec Fabrice. L'accident de sa fille avec un lave-vaisselle lorsqu'elle était petite aurait pu être bien plus grave.
On parle des accidents de la vie courante sur Europe 1. N'hésitez pas à nous téléphoner 39 21 pour venir témoigner. 9 parents sur 10 disent avoir déjà eu un comportement à risque en présence de leur enfant. C'est l'étude que dévoile l'association Attitude Prévention. Nous parlons des accidents domestiques. Cela vous est arrivé, on vous attend au 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Fabrice sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, soyez le bienvenu au 39 21, Fabrice.
Oui, bonjour à vous.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 65 ans, je vous appelle de Nancy.
D'accord. Alors, en Meurthe-et-Moselle, hein, c'est ça ? Je me souviens.
En Meurthe-et-Moselle, c'est d'accord. Ça, oui, exactement.
Pourtant, j'y suis allé souvent. Magnifique ville de Nancy. Votre fille a, elle aussi, été victime, Fabrice, d'un accident de la vie domestique lorsqu'elle était plus petite. Le lave-vaisselle était ouvert et elle a trébuché dessus. Hein. Racontez-moi ce qui s'est passé.
Oui, effectivement. Alors, effectivement, ça peut paraître un petit peu plus léger que ce qu'on a entendu, les cas un petit peu plus dramatiques précédents. Mmh. Aujourd'hui, on sourit souvent de cette anecdote, mais elle aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Effectivement, Marine avait 6 ans ou 7 ans, et pour ne pas avoir à faire le tour de la table, hein, elle jouait dans la cuisine, eh bien, elle a décidé de passer tout près du lave-vaisselle. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Elle a trébuché, elle est tombée assise sur le lave-vaisselle dont la porte était ouverte. Grand Dieu, merci, les couteaux n'étaient pas en place dans le panier qui reçoit les couverts. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'elle s'est relevée en hurlant, en courant dans la maison avec une fourchette plantée dans les fesses. Mmh. Alors ça a amusé un petit peu tout le monde, évidemment. Il a fallu la rattraper, lui enlever la fourchette. On a gardé les traces pendant quelques années. Mmh. Mais c'est vrai que ces petits instants d'inattention peuvent avoir des conséquences plus dramatiques. Et celui-là, malheureusement, c'est bien terminé pour elle.
Alors, on parle justement de fin de cet accident, en tout cas de dénouement plutôt drôle, même si je pense que Marine, elle, avec une fourchette plantée dans les fesses, n'a pas rigolé sur le coup. Mais il est vrai que vous l'avez souligné, cet enfant aurait pu très bien tomber la tête la première et se crever un œil, mais tout simplement même sur les supports qu'on peut avoir dans un lave-vaisselle, puisque voilà, on peut tomber et puis un œil sur un pic en plastique. En fait, quel a été votre premier réflexe avant que je vous demande qu'est-ce que vous en avez tiré comme conséquence ? Votre premier réflexe lorsque elle s'est enfoncée cette fourchette ?
Ah ben, le premier réflexe, ça a été effectivement ensuite de systématiquement ne plus jamais laisser cette fichue porte ouverte.
Oui.
C'est des choses auxquelles on ne pense pas, il ne nous vient absolument pas à l'idée qu'un outil de la vie de tous les jours comme un lave-vaisselle puisse devenir quelque chose de dangereux pour son enfant. On n'anticipe pas effectivement les faits et gestes de ces petits enfants.
En tout cas, on n'anticipe pas avec un lave-vaisselle, mais vous arrivez-t-il, Fabrice, justement d'anticiper et de protéger vos enfants contre les accidents de la vie domestique de tous les jours ?
Alors, certains, bien évidemment, tout à l'heure a été évoqué le cas de l'eau bouillante. Évidemment, ça, c'est des choses auxquelles on pense, mais pas celui-là. Jamais dans notre esprit, on s'est dit, bon, on va ranger la vaisselle, et puis les 10 secondes qui se passent, on s'éloigne un petit peu pour attraper quelque chose, et voilà, ça peut arriver. Mais non, effectivement, ce cas de figure... On l'avait envisagé, et c'est sûr que par la suite, on a été extrêmement attentif par rapport à ça.
Muriel Boin, quels sont les meilleurs gestes à adopter pour éviter ce type d'accident lié au tout ménager, en fait, hein, à tous ces appareils qu'on a de plus en plus ?
Alors, je voudrais juste dire que cet accident de lave-vaisselle, il n'est pas du tout isolé.
Parce
qu'on a aussi beaucoup de témoignages, nous, de ce côté-là, et notamment pas seulement avec des enfants, mais effectivement avec des personnes âgées aussi, qui à un moment donné vont reculer dans leur cuisine pour plein de raisons. Elles ont oublié qu'elles avaient laissé leur lave-vaisselle ouvert, Et comme il est de notoriété publique, il faut que les couverts soient mis pointe en haut, malheureusement, pour qu'ils soient mieux lavés, ce qui n'est pas du tout la bonne façon de faire, puisqu'en fait, il faut vraiment les retourner. Ça lave tout pareil. Effectivement, prenez déjà cette habitude-là de déjà retourner la pointe en bas, les fourchettes et les couteaux. Et puis, systématiquement, et ça c'est vrai pour un grand nombre de choses, c'est dès qu'on a fini d'utiliser quelque chose, on le range, on enlève tout danger potentiel en débranchant l'appareil, en le rangeant à sa place, en enlevant tout ce qui peut être couteau, objet pointu ou coupant.
Parce que j'écoutais Fabrice et j'étais en train de me dire combien de fois j'ai vu le lave-vaisselle ouvert chez moi alors qu'il est dans un coin et combien de fois je me suis cogné dedans. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas obligatoirement. Attention à tous ces appareils qu'on ouvre et qu'on ne referme pas obligatoirement. Merci beaucoup Fabrice pour votre appel et pour votre témoignage. Embrassez bien Marine qui doit aller bien mieux aujourd'hui puisque elle a quelques années en plus. Dans quelques instants, nous accueillerons Stéphane qui lui est tombé d'une échelle en taillant sa haie il y a quelques années.
Europe 1. Vous êtes tombé chez vous aussi, peut-être vous vous êtes brûlé, vous vous êtes coupé. On parle des accidents domestiques. Vous nous racontez au 39-21. N'hésitez pas également pour nous écrire, c'est Twitter, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons des accidents de la vie domestique lorsque vous cuisinez ou utilisez des produits chimiques à la maison.
Et pour la dernière partie de cette émission, nous retrouvons Stéphane. Bonjour Stéphane, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Stéphane ?
Alors, j'ai 48 ans, je vous appelle de Bordeaux.
D'accord. Vous êtes tombé il y a combien de temps de cette échelle en taillant votre haie Stéphane ?
C'était il y a 6 ans, c'était en 2012.
Quelles ont été les conséquences de cette chute ?
Mais les conséquences, ça a été 9 jours de coma, une sternotomie. C'était très compliqué au niveau psychologique ensuite par la... Suite au coma.
Alors, revenons d'abord à cette chute. Elle se fait dans quelles conditions ? Vous avez quelque chose pour tailler votre haie dans les mains ? Est-ce que c'est quoi ? C'est une tronçonneuse ?
C'est un tailleur manuel, une grosse cisaille, un gros ciseau, si vous voulez.
D'accord. Et donc, ce ciseau, dans votre chute
Dans ma chute, ce ciseau, en fait, c'est planté dans ma gorge.
D'accord.
Et dans mon menton.
D'accord. Et donc, vous avez eu la gorge coupée ?
Oui.
Qu'est-ce que ça a entraîné ?
S'entraîner de...
Des complications pulmonaires, vous m'avez dit, ouais.
Oui, par la suite, oui. En fait, dans ma chute, je suis tombé à plat ventre, si vous voulez.
Oui.
Et à l'hôpital, on m'a fait donc un scanner et j'avais le tronc veineux innominé, c'est-à-dire une grosse veine qui part du cœur, qui alimente le bras, qui faisait hémorragie, quoi.
Ouais.
Donc, il a fallu faire une sternotomie. Et suite à ça, il y a eu des complications pulmonaires. D'après ce que m'ont dit les chirurgiens,
ouais.
Donc ils m'ont plongé dans un coma artificiel pendant 9 jours. Et pendant 9 jours, j'étais pas certain de sortir vivant. Quoi.
Comment allez-vous aujourd'hui, avant qu'on parle un petit peu de tout ce que vous avez pu développer comme pensée autour de cette chute ? Comment ça va ?
Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux. Alors, justement, les questions qu'on peut se poser autour de cet acte d'aller tailler sa haie et puis de finir 9 jours dans le coma avec toutes les complications que vous venez de nous rappeler. Et puis, je suppose, des complications professionnelles aussi. Quelles questions on se pose et quelles pensées nous envahissent ?
On culpabilise beaucoup.
Oui. On aurait pu l'éviter, de toute façon.
On aurait pu l'éviter. Moi, je suis dans le bâtiment depuis presque 30 ans.
Oui.
Des échelles, j'en ai monté pendant des dizaines et des dizaines de fois. Et il a suffi d'une fois pour que je me blesse, quoi. Et donc, j'ai culpabilisé énormément envers ma famille, envers ma femme, envers mes enfants. Parce que, je les ai fait quand même souffrir. Ils ont beaucoup pleuré. Ils se sont posé beaucoup de questions aussi. Et j'ai culpabilisé pendant très, très longtemps.
Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui provoquent cette chute ce jour-là? Ou est-ce que vous avez été particulièrement imprudent?
Absolument pas. Un beau temps dimanche après-midi, un 25 mars, où il faisait un beau soleil.
Oui.
J'étais imprudent puisque j'ai glissé de cette échelle. J'étais imprudent, en manque d'inattention.
Mais vous avez glissé, en fait, voilà, c'est par manque d'inattention.
Vous vouliez
tailler une branche qui était un petit peu plus loin que d'habitude et vous avez pris un petit risque.
Oui, et puis l'habitude d'être sur une échelle. Donc, on n'y fait plus attention, quoi.
Muriel Boin, je rappelle que vous êtes experte pour Attitude Prévention. Que peut-on faire dans ce type d'accident ? Comment on peut prévoir ce type d'accident ?
Alors déjà, on va dire que jardinage, bricolage, c'est à peu près 300 000 recours aux urgences par an.
Oui,
donc c'est vraiment des accidents qui sont souvent graves, avec des grosses coupures. Donc là, est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que au bout d'un moment, effectivement, il a loupé un barreau de l'échelle? Je crois que lui-même a un petit peu peut-être de mal à analyser ce qui s'est passé. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est, alors je ne sais pas s'il était seul à la maison le jour où c'est arrivé, mais ça aurait peut-être pu être encore plus grave. Et on a pas mal d'accidents là de messieurs, hein, surtout, qui sont des accidents de bricolage à l'extérieur, à un moment donné où il n'y a personne à la maison. Ça peut être un jour de RTT où, par exemple, on veut bricoler. Et là, on a des témoignages aussi de personnes qui nous disent, mais oui, finalement, j'avais pas, même pas mon téléphone portable. Donc, c'est ma femme qui, le soir en arrivant, m'a retrouvée, m'a découvert allongée sur le sol et je n'ai rien pu faire pendant toute l'après-midi, par exemple. Donc, ça, c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, c'est en tout cas déjà ne pas présumer de ses forces et s'arrêter en temps voulu, mais surtout ne jamais bricoler lorsqu'on est seul à la maison et qu'on n'a aucun moyen d'appeler les secours.
Ne jamais bricoler quand on est tout seul à la maison, ne jamais avoir trop confiance. Je pense à un de mes amis qui taillait sa haie lui aussi avec une petite tronçonneuse et qui a forcé un petit peu sur une branche et qui s'est mis la tronçonneuse sur le cuir chevelu et ça aurait pu être très grave. Mille merci pour votre témoignage au 3921 Stéphane. Merci aussi à Bérangère, à Laetitia, à Valentine, à Fabrice et aussi à vous Muriel Boin. Je rappelle que vous êtes toujours experte pour Attitude Prévention. C'est la fin de cette émission grâce à vos témoignages. On se rend compte que ces accidents de la vie courante qui peuvent paraître anodins, hein, peuvent être graves et même dramatiques. Grâce aux conseils et aux éclairages d'Attitude Prévention, nous avons appris que l'on peut prévenir ces accidents domestiques. Il faut penser à adopter les bons gestes, ne pas laisser un lave-vaisselle ouvert dans la cuisine, toujours faire attention à bien éteindre le gaz. Il est important, on l'a vu aussi, que les parents sensibilisent leurs enfants. N'hésitez pas à consulter le site d'Attitude de Prévention pour connaître les bons gestes à avoir chez soi. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous.
Merci à vous
de nous rejoindre.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble d'un sujet vaste et important, la radinerie. Comment vivre auprès de quelqu'un qui est proche de ses sous au point que cela puisse en devenir maladif. Si vous vivez avec un radin et que l'un de vos proches l'est, si vous êtes radin vous-même et que vous l'assumez, si vous êtes un ancien radin, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. La radinerie, c'est le thème de demain à 15h. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de
également
passer encore une fois de plus cette heure avec vous.
À demain.
Et puis maintenant, on vous laisse avec l'excellente Laurence Boccolini. Bonjour Laurence.
Bonjour Olivier, ça va bien?
Et comment cela va-t-il?
Eh ben ça va bien.
Bon.
Ça et vous?
Bah écoutez, ça va.
Ça va. Et vous? Ça va.
Ça
peut tourner longtemps.
Bon, oui, alors, ça va durer longtemps.
Et alors, on joue avec qui aujourd'hui, ma chère?
Avec Thomas. Thomas VDB.
Oh là là.
Thomas VDB.
My idol. Mon idole.
Notre idole.
Et ben, jouez bien, les filles. Un bon week-end.
Merci.
Ah oui, déjà jeudi.
Et ben, on est jeudi.
Ah mais oui, c'est vrai.
On est là demain.
Je dois pas venir demain, c'est ça.
Je viens d'annoncer le sujet de demain, ça y est, je suis déjà en week-end.
C'est un message subliminal, faut que je me casse, un truc comme ça. Bon, ok. D'accord, Olivier. Bon week-end, Olivier.
Salut.
Salut, à demain.
À tout de suite avec Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.